À ne pas manquer au cours de la prochaine heure aux amateurs de sport, on s'entretient avec Ray Lalonde, notamment sur le dossier Colin Kaepernick qui en vient à une entente avec la NFL. De quoi il retourne exactement? Alors, les commentaires et l'opinion de Ray à ce sujet. Danny Dubé sera avec nous, retour sur le match d'hier et regard bien sûr sur l'affrontement de demain contre les puissants ou le puissant Lightning de Tampa Bay. Et à l'instant même, nous accueillons Philippe Quentin. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
Philippe, on aime ça jouer un peu au gérant d'estrade, hein? Si on se place dans les bottines de Marc Bergevin, d'ailleurs, je te confie le rôle, tiens, pour les besoins de la conversation. quels sont les paramètres sur lesquels tu prendrais une décision par rapport à l'imminence ou l'urgence de faire une transaction pour améliorer ton équipe ou la prudence qui devait être de mise? Est-ce que tu t'organises pour te dire, ah ben, moi, dans le fond, là, le gros coup, c'est quand Kotkaniemi va être mon premier centre puis va être mon meilleur pointeur, donc peut-être dans 2 ans, c'est peut-être dans 3 ans, ça va être là le gros moment. Ou, dans le fond, tu dis, hey, moi, je suis allé chercher Shea Weber, il y a une couple d'années, il a été blessé, ça nous a fait perdre de vue un petit peu notre horizon, mais je suis allé chercher pour gagner, puis c'est maintenant qu'on veut gagner.
Gros dilemme, hein, à quelque part,
oui,
parce que oui, Weber, il vieillit, alors tu veux pas trop attendre, même chose pour Price, mais j'espère tellement, Mario, cela dit, que le Canadien sera patient. Pour la première fois, on sent qu'il y a un plan, pour la première fois depuis 3 ans, on sent qu'il y a un plan cohérent au sein de l'organisation, on a décidé de prendre un virage, de faire confiance à des jeunes. La preuve, c'est qu'on a gardé Kotkaniemi avec le Canadien cette saison, on aurait pu lui demander d'aller faire ses classes ailleurs, donc on veut investir dans nos jeunes. On a une relève pour la première fois et qui est prometteuse. Et je parle de la relève qui est à l'extérieur du Canadien à l'heure actuelle, c'est-à-dire Ryan Poehling dans les rangs universitaires américains, Josh Brook et Suzuki dans les rangs juniors. Alors,
Romanov aussi, tout à fait.
Alors, les choses tombent tranquillement en place pour que le Canadien, dans 2 ans, dans 3 ans, soit une réelle puissance de la Ligue nationale. Mm-hmm. Et là, j'écoute les réactions un peu partout, puis c'est normal, les gens s'emballent. D'abord, depuis plusieurs années maintenant, à la veille des dates limites des transactions, c'est le suspense, tout le monde a hâte de voir ce qui va arriver. C'est un événement dans la saison, c'est excitant, puis je comprends tout le monde d'en parler, puis de supputer sur les transactions, puis qu'est-ce qui va arriver avec l'un ou l'autre, puis c'est le fun de parler de ça, quelles équipes seront vendeuses, acheteuses, puis évidemment, il y a des défis très intéressants pour différentes organisations. Alors, tout ça, j'en suis et j'applaudis, mais je pense que la stratégie du Canadien dans tout ça, elle doit être axée sur le plan qui a été lancé. Et quand Marc Bergevin a dit qu'il n'hypothéquerait pas son avenir pour combler des besoins à court terme, je souhaite réellement que ce soit le cas et qu'il ne tombera pas dans le piège d'aller chercher un joueur qui pourrait peut-être aider à court terme, mais qui s'inscrirait pas dans le plan à plus long terme.
Je me demande si un empêche absolument l'autre. Et pour tenter de raffiner un peu le tir ensemble, Philippe, je te repose une autre question. Dans ta vision des choses, à quel moment le Canadien, un peu dans le sens de l'autre, mais avec un angle un petit peu différent, est-ce que les noms que tu nous as nommés, les espoirs là, qui jouent actuellement junior ou universitaire, et incluons Kotkaniemi là-dedans parce qu'il a seulement 18 ans, est-ce que tu vois ces joueurs-là être le noyau de ta future équipe potentiellement gagnante ou tu les vois être le souffle nécessaire et le souffle nouveau pour aider la bande à Weber à gagner?
Ben, pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit le souffle additionnel. Il faut pas qu'il soit le noyau parce que sans ça, ça va être trop long. On peut pas s'attendre à ce qu'un joueur comme... À ce qu'un joueur comme Kotkaniemi ou qu'un Poehling ou qu'un Suzuki du jour au lendemain devienne un sauveur pour le Canadien. Alors, je pense que oui, il y a les deux plus vieux vétérans, c'est-à-dire Weber et Price, qui demeurent des valeurs sûres. Mais il y a également des Jonathan Drouin, des Max Domi, des Philippe Dano qui doivent être le cœur de cette formation-là pour encore un certain nombre d'années. Ils sont relativement jeunes, là. C'est des gars qui peuvent aider l'équipe pendant encore 5-6 ans très facilement. Alors, il faut que ça soit autour d'eux que d'abord et avant tout ça se cristallise et après ça, les jeunes pourront venir donner un petit coup de main.
Ça veut dire donc, Philippe, qu'en toute logique, le moment d'aller chercher du renfort, je dirais pas à tout prix là ou à n'importe quel prix, mais un renfort significatif sur la glace au GM de déterminer si le prix est adéquat. Là. Mais donc, ça pourrait être en partie cette année également. Parce que, tu sais, je te laisse enchaîner.
Oui, mais il y a un piège, à mon avis, Mario. Il y a un piège dans tout ça. C'est que si on va trop vite et puis qu'on donne un morceau important dans la relève, c'est qu'on ignore Est-ce qu'on donne un trésor sans le savoir? Mm-hmm. C'est très difficile à l'heure actuelle de déterminer quel genre de joueur sera exactement Ryan Poehling dans la Ligue nationale. C'est très difficile de savoir ce que Nick Suzuki donnera. C'est très difficile de savoir ce que Romanov sera. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a de l'espoir avec ces trois joueurs-là, comme il y a de l'espoir avec le défenseur Josh Brook. Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu d'espoir? Ça fait combien d'années qu'on attend que dans la relève du Canadien, il y ait vraiment des joueurs qu'on dise « Hey, on a hâte de les voir arriver avec le Canadien. On a hâte de les voir à Montréal. » Je me souviens pas d'avoir vu ça, moi, dans les dernières années. Tu sais, McCarron, Sherbak, c'était tout le temps « Ouais, peut-être, on n'est pas trop sûr. » Puis finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Puis si tu retournes encore plus loin en arrière, Nathan Beaulieu, ça a été un peu décevant. Tenordi, ça a été la même chose. Alors là, pour la première fois, il y a des éléments prometteurs pour l'avenir. Il faut les garder parce que je te dis pas que c'est nécessairement ils deviendront des vedettes. Est-ce qu'ils vont tous fonctionner? Est-ce que les quatre qu'on vient de nommer, là, mm-hmm. Romanov, Brook, Suzuki, Poehling, ajoutons même Kotkaniemi, est-ce que les cinq vont devenir des stars dans la Ligue nationale? Ça serait étonnant que le Canadien frappe 5 en 5. Kotkaniemi, je pense que c'est bien parti. Les quatre autres, on verra. Mais si le Canadien frappe 500 ou 750, 2 sur 4 ou 3 sur 4, c'est déjà pas mal. Maintenant, c'est lequel? C'est lequel qui va devenir, lequel qui va sortir de ce lot-là? Alors moi, je dis, attendons d'en savoir plus long avant de prendre une chance et d'éventuellement céder un actif comme celui-là.
En principe, le Canadien a un avantage sur les espoirs qu'il possède. Déjà, parce que quand ils sont déjà dans ton organisation, on en convient, tu devrais avoir plus d'infos que le voisin. On est d'accord. En tout cas, en principe, Philippe, es-tu d'accord avec ça?
Oui, oui.
Bon, alors, toi, tu en as repêché des joueurs, mais peut-être que là, plus que tu les connais dans le développement, plus que tu identifies des trucs que tu dis, finalement, je ne suis pas sûr que ça, que ce gars-là, même si le gars a encore une très bonne réputation dans le public, là, puis auprès des observateurs à une certaine distance, ah oui, lui est bon. Mais eux autres, ils ont peut-être commencé déjà à identifier, comme dans le cas de Sergachev, puis l'avenir leur peut-être leur donnera pas raison, on verra, parce que c'est encore jeune dans le cas du bilan de l'échange Sergachev-Drouin. Mais clairement, en tout cas, ils ont identifié des trucs chez Sergachev où ils se sont dit, ben dans le fond, oui, c'est un excellent joueur, mais regarde, sans rentrer dans les détails, là, il y a des éléments qui se sont dit, peut-être qu'on peut se permettre de l'échanger parce qu'on a vraiment besoin de ce que l'autre va nous amener en retour.
Ouais.
Alors, cette façon de penser-là, puis, tu sais, tu regardes dans le passé, tu te souviens-toi de Kovalev, là, Joseph Ballet, là. Ben, les Rangers devaient voir quelque chose en lui, puis le Canadien devait voir qu'il aboutirait pas. Ils l'ont donné, puis il n'a jamais eu de carrière. Je pense à Sébastien Kolberg qu'on a échangé contre Thomas Vanek. L'équipe qui l'a acquis voyait quelque chose dans Kolberg, ça n'a pas abouti. Alors, est-ce que ça peut être un avantage pour le Canadien d'échanger peut-être la valeur dont il doute le plus, mais qu'ils ont?
Ça dépend, mais si tu veux faire un échange qui est le moindrement significatif, je suis pas sûr que c'est à la date limite des transactions que tu vas le faire. Mm-hmm. Parce que souvent, ça va être des joueurs de location ou sans ça, réaliser une transaction plus importante, c'est possible, bien sûr, c'est toujours possible, mais souvent, on va plus voir ça pendant
la saison
l'été. Ouais, exactement. Parce que tu peux prendre le recul un peu. Tu as ta saison pour analyser tout ça. Et puis, souvent, là, il y a la distance qui va te permettre peut-être de faire un meilleur raisonnement. Puis dans le cas de Sergachev et Drouin, c'est exactement ça qui est arrivé. C'était pas une transaction à la date limite. Par contre, Vanek, oui, mais Vanek, on savait qu'il devenait autonome. C'est un joueur de location. Puis oui. Il a rendu de très bons services, mais finalement, il n'a pas à performer suffisamment en séries éliminatoires pour que le Canadien lui offre un contrat la saison suivante, et c'était une bonne décision. Mais tout ça, toute cette discussion-là, au fond, elle a un point d'ancrage, à mon avis, Mario, et ce point d'ancrage-là, c'est est-ce que le Canadien est une équipe qui peut, de façon réaliste, compétitionner pour gagner la Coupe Stanley dans, disons, 3-4 ans. 3 ou 4 ans. Mm-hmm. Moi, je réponds à ça, oui, je pense que oui, je pense qu'il y a des actifs. Maintenant, je pose la deuxième question. Est-ce que le Canadien est une équipe qui peut menacer pour gagner la Coupe Stanley ce printemps, en 2019? Et ça, je réponds à ça, un non catégorique. Alors, je trouve que c'est la combinaison des deux réponses m'aide un petit peu à voir quelle devrait être la stratégie à la date limite des transactions. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas hypothéquer l'avenir tout de suite. Parce que même si tu t'améliores, si tu vas chercher un joueur qui est un actif, qui va bien, est-ce que tu penses vraiment que tu vas que tu vas te rendre en finale de la Coupe Stanley cette année, que tu vas sortir de la Conférence de l'Est? Je pense pas, moi. Je pense pas. Alors, je pense que ça doit guider un peu les choix.
Je pense pas.
On l'a vu hier aussi contre Nashville. Oui. C'est une équipe qui a des limites, là, le Canadien. Là. Puis on verra demain contre Tampa Bay.
Peut-être ça veut pas dire que le Canadien gagnera pas le match numéro 2 si c'était une série, comme ça veut pas dire qu'il aurait pas perdu le match numéro 2 contre Winnipeg après avoir bafoué dans le premier match.
Tout à fait. Mais moi, je ne vois pas le Canadien gagner une série 4-7 à l'heure actuelle contre Nashville, contre Winnipeg, contre Toronto ou contre Tampa Bay. Ça, c'est ma lecture des faits. Je pense pas. Je pense que oui, ils peuvent gagner un match ou deux, oui, mais gagner 4-7, je pense pas.
Ah, contre Tampa Bay, je gagerais pas cher. Un peu de baseball, Philippe. Harper et Machado frappent toujours un mur. Toujours pas de contrat pour ces joueurs autonomes qui cherchent à frapper le gros lot ou à toucher le gros lot.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ça va durcir un peu le climat dans le baseball majeur. Il y a eu une sortie cette semaine de Justin Verlander, le lanceur des Astros de Houston, qui a dit « Le marché est brisé, le système est brisé. » Justement parce que ces joueurs-là, des joueurs vedettes, jeunes dans les deux cas, ils ont 26 ans, n'ont pas réussi à trouver de contrat encore. C'est sûr qu'ils ont eu des offres, là, mais ils veulent toucher le gros lot, puis probablement que le standard qu'ils veulent atteindre, c'est le contrat de Giancarlo Stanton, qui avait signé à l'époque avec les Marlins de Miami. C'était 325 millions pour 13 ans de mémoire. Alors là, eux, ils veulent toucher un gros pactole, mais il n'en reste pas moins qu'ils ne sont pas signés à ce moment-ci. Cette semaine, les camps d'entraînement ont commencé. Pas les joueurs réguliers encore, pas les joueurs de champ, mais les lanceurs et les receveurs se sont rapportés aux différents camps d'entraînement. Et souviens-toi, l'an dernier, on a cité au même phénomène, c'est-à-dire que beaucoup de joueurs autonomes et parmi les plus gros noms sur le marché, ils ont vraiment signé leur contrat très, très tard, en mars, et l'association des joueurs n'était pas contente. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont dit avec raison, « Ah oui, mais c'est un phénomène épisodique, on ne reverra pas ça en 2019, parce qu'en 2019, il y a Machado et Harper qui devraient avoir leur autonomie, exercer leur droit à l'autonomie, puis là, les équipes vont s'enligner pour aller signer ces gars-là, ça va faire démarrer le marché, puis ça va, donc ça, on va revenir au système un peu normal où les joueurs signent vraiment pendant l'hiver et non pas au début des camps d'entraînement. » Mais ce n'est pas ça du tout qui s'est produit. Et là, on attend encore la signature, puis il y a encore beaucoup, beaucoup de joueurs autonomes de qualité qui n'ont pas signé leur contrat. Alors, les joueurs ne sont pas contents. Les propriétaires, eux, disent, ben nous, on est prudents. Donner des 10 ans, on sait que ça des contrats de 10 ans, il y a un risque énorme. Puis, il y a des équipes qui en paient le prix. Là, les Angels de Californie ont donné à Albert Pujols il y a quelques années, 10 ans, là, ils doivent s'en mordre les pouces un peu aujourd'hui.
Parce que les montants par année sont tellement considérables que quand tu y vas dans des ententes à long terme, ça n'a aucun sens.
C'est ça. Puis, au baseball comme au hockey, les contrats sont entièrement garantis. Alors, tu es obligé de payer, puis tu payes longtemps des fortunes pour des joueurs qui ne deviennent plus qui ne sont plus performants rendus à 33, 34, 35 ans. Alors, ça pose un problème et j'ai hâte de voir comment le baseball majeur va réussir à refaire un peu l'unité avec les joueurs autour de ces questions-là parce que c'est clair que là, la convention collective est encore valide pour 3 ans. Là. Elle se termine à la fin de la saison 2021. Donc, on va jouer en 2019, en 2020, en 2021. Mais si on répète cette espèce de scénario au cours des 3 dernières années, puis l'an dernier, on pensait que c'était épisodique, ben non, ça revient cette année. C'est encore la même chose l'an prochain, et ainsi de suite. Je pense que les joueurs ne seront pas très contents. Alors, j'ai hâte de voir comment les équipes vont se... Et le bureau du commissaire et le commissaire lui-même vont se comporter dans ce dossier-là qui risque de rendre plus difficiles les relations entre les deux parties.
Bien, certainement, on va surveiller ça. Puis moi, j'ai hâte d'entendre « Bonsoir les sportifs » demain après le match entre le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal pour avoir à chaud les réactions de Philippe Quentin qui animera l'émission d'après-match.
Ouais.
Alors, Philippe, on va tendre l'oreille à la radio demain soir.
T'es bien gentil, je suis très, très excité d'animer ça demain soir.
Alors, je te souhaite un bon week-end un peu différent que tes derniers week-ends.
Merci beaucoup, Mario.
Merci, Philippe. Alors, à très, très bientôt. Dans quelques instants, Ray Lalonde sera là. Une chronique spéciale Sport Business ce soir sur le dossier Kaepernick. Mais dans un instant, Danny Dubé, retour sur le match d'hier contre les Predators. Danny qui dit, dans le fond, le Canadien, a-t-il des chances dans les séries? Pourquoi pas? Alors, on va développer là-dessus.